Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi, nous sommes le 24 avril. Trois ministres hier à la prison de Saint-Quentin-Fallavier et deux ministres aujourd'hui à Lyon dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité au travail. L214 dépose une plainte auprès du procureur de la République de Roanne, plainte visant directement l'abattoir public de Charlieu dans la Loire. 21 nichoirs ont été spécifiquement conçus pour différentes espèces et ont été placés dans les cimetières de Villeurbanne. Est Métropole Habitat fait un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre et continue de chercher des solutions pour les faire baisser. Explications et reportages complets avec Inès Crimi. Et puis Indochine qui prolonge sa tournée à la LDLC Arena avec deux dates supplémentaires.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Premier ministre François Bayrou, accompagné des ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, se sont rendus hier au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, et ce au lendemain des attaques de deux maisons à Villefontaine, où des agents pénitentiaires étaient visés. Et après plusieurs attaques contre les prisons partout en France, François Bayrou a réaffirmé son soutien aux victimes. Ils sont en première ligne de la ligne la plus difficile de la société. Ces agents sont notre dernier recours à c'est le Premier ministre. Pas de doute que cette situation est intolérable, selon lui. Pour qu'il y ait une action coordonnée dans plusieurs centres pénitentiaires, c'est qu'il y a des gens qui se sentent menacés, qui se sentaient tout puissants, conclut François Bayrou. 65 faits ont été commis en 10 jours contre les prisons et les agents pénitentiaires, selon le ministère de l'Intérieur. La ministre du Travail Astrid Panossian-Bouvet et le ministre de la Santé Yannick Neuder sont attendus à Lyon ce jeudi dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité au travail. Ils se rendront sur le site de l'entreprise Valserve, entreprise qui fait appel à Promeum, un service de prévention et de santé au travail interentreprise. Astrid Panossian-Bouvet a également prévu de visiter l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. L214 a franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre les pratiques d'abattage cruel. L'association a en effet déposé une plainte visant directement l'abattoir public de Charlieu. Comme à son habitude, L214 étaye ses accusations par la diffusion d'images et de vidéos choquantes obtenues grâce à des lanceurs d'alerte infiltrés au sein de l'établissement. Ces séquences datées entre janvier et avril 2025 lèvent le voile sur des scènes d'abattage particulièrement violentes. On y voit des animaux égorgés alors qu'ils semblent encore conscient malgré l'étourdissement préalable, ainsi que des bêtes brutalisées afin d'être dirigées vers la zone de saignée. L'association met en lumière une innovation dans ses méthodes d'enquête. Pour la première fois, des caméras ont été placées au sol, à l'entrée du box d'immobilisation des bovins et dans le dispositif d'étourdissement des cochons, donnant à voir les réactions des animaux au plus près. Face à ces révélations, L214 adresse en tout cas une demande ferme au préfet de la Loire, réclamant la fermeture immédiate de l'abattoir. L'association souligne les manquements des services vétérinaire de la préfecture, dont la mission première est de garantir le respect de la bientraitance animale avant et pendant l'abattage, conformément à la réglementation en vigueur. L'offensive de L214 ne s'arrête pas là. L'association interpelle également la préfète de région, Fabienne Bussiaud, insistant sur la nécessité d'un audit de tous les abattoirs d'Auvergne-Rhône-Alpes, rappelant que Charlieu est le troisième établissement de la région épinglé par les enquêtes L214 depuis novembre dernier. La préfecture de la Loire a rapidement réagi à ces accusations. Dans un communiqué, elle exprime sa vive préoccupation et assure qu'elle contribuera activement à l'enquête judiciaire en cours dans un souci de transparence et de recherche de la vérité. Cette nouvelle plainte de L214 relance une fois de plus le débat sur les conditions d'abattage des animaux et la surveillance des pratiques au sein de ces structures. L'enquête judiciaire et les investigations administratives à venir devraient apporter des éclaircissements cruciaux sur les faits dénoncés et leurs éventuelles conséquences. Des professionnels de l'entreprise Surus Urbanis, accompagnée d'une équipe de cordistes, viennent d'installer des nichoirs dans les arbres des cimetières de Villeurbanne. Cette opération a servi de support à une visite guidée du nouveau cimetière de la ville et dans le cadre du programme du festival Villeurbanne Côté Jardin. L'occasion de revenir sur le nombre et l'emplacement stratégique de ces abris. Au total, ce sont 21 nichoirs spécifiquement conçus pour différentes espèces telles que les mésanges, les rouges queues noires ou encore les huppes faciées, les faucons cresserelles les grimperaux des arbres et les moineaux. 3 gîtes pour les chauves-souris complètent ce dispositif. La visite a permis de mettre en lumière une gestion différenciée des espaces verts au sein du cimetière. Certaines zones intentionnellement laissées avec une végétation plus haute offrent un habitat essentiel à la chaîne alimentaire des oiseaux. Ces zones en friche favorisent notamment la présence de la fauvette noire, du rouge-gorge et du rouge-queue noir. Des panneaux informatifs viendront prochainement expliquer cette approche écologique aux visiteurs. Un nichoir et un perchoir seront également installés dans le carré israélite, zone de reproduction privilégiée pour ces espèces. Cette action conjointe entre la LPO et la municipalité de Villeurbanne fait suite à un inventaire ornithologique commandé par la ville. Ce recensement a permis d'identifier au moins 25 espèces d'oiseaux fréquentant les cimetières locaux, parmi lesquels les serins, les rouges-queues et autres milans noirs. Cette richesse aviaire a valu au cimetière de Villeurbanne une labellisation en 2024, soulignant leur rôle potentiel en tant que sanctuaire de biodiversité en milieu urbain.
Lyon demain, programme durable.
Comme tous les 3 ans, Est Métropole Habitat fait un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre et continue de chercher des solutions pour les faire baisser. Matériaux biosourcés et réemployés, raccordement au chauffage urbain, on fait le point sur ses avancées avec Inès Crimi.
Des engagements non seulement sociaux mais aussi environnementaux. Tous les 3 ans depuis 2021, Est Métropole Habitat, bailleur social rattaché à la métropole de Lyon, réalise son bilan des émissions de gaz à effet de serre. Résultat pour 2024, une baisse annuelle de 5,1% des émissions pour l'organisme. Céline Reynaud est directrice générale d'Est Métropole Habitat, ou EMH. Elle évoque l'identification de 3 principaux émetteurs de gaz à effet de serre et leurs leviers d'action.
Alors aujourd'hui, le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, c'est l'exploitation de nos résidences, et en particulier par le chauffage. Donc c'est là-dessus qu'on souhaite jouer prioritairement, avec notamment le raccordement au chauffage urbain. Le deuxième élément qui impacte les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'acte de construire. Donc là aussi, on veut construire de manière plus vertueuse, notamment en anticipant les réglementations ou en utilisant le réemploi. Et puis le troisième élément, c'est l'acte de réhabiliter. Donc là aussi, on essaye d'utiliser des matériaux, notamment des matériaux biosourcés, pour diminuer le poids des émissions de gaz à effet de serre dans l'acte de réhabilité.
Et justement, quel est votre ou vos principaux leviers pour justement lutter contre ces émissions ?
Le raccordement au chauffage urbain, 4200 logements entre 2025 et 2026 vont être raccordés au chauffage urbain. Donc ça va permettre de diminuer fortement les émissions, puisque le raccordement au chauffage urbain fait baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre par logement. Et puis le deuxième levier, c'est la réhabilitation. Toujours la réhabilitation. Donc on lance des opérations importantes. La résidence Pranard à Villeurbanne, la résidence Mono, la résidence Saint-Jean, dont les travaux vont commencer d'ici début 2026.
Construire et réhabiliter de manière plus vertueuse, des objectifs qui passent principalement par le choix des matériaux biosourcés ou réemployés. Paul Sachaud, chargé de mission expérimentation et financement au sein d'Est Métropole Habitat, nous présente ses solutions bas carbone.
On a de l'isolant bois, on a de l'isolant paille, on a de l'isolant à base de jeans recyclés, on a de l'isolant à base de bouteilles de plastique recyclées, à base de coton recyclé aussi, et on a aussi des échantillons de pierre massive pour un de nos prochains projets de près de 60 logements. Et on a aussi un échantillon de parquet. Voilà, c'est un exemple de produit qu'on est allé récupérer d'un bâtiment qu'on a déconstruit et produit qu'on est allé remettre dans une production neuve. Ce qui a le mérite en plus d'avoir un produit qui est stable, puisqu'il a déjà séché depuis près de 50 ans.
Et qu'est-ce que ça va avoir concrètement en termes d'impact écologique ?
Alors, l'idée, c'est de réduire par quasiment 2 notre impact carbone à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est compliqué, la réglementation s'impose à nous, donc on ne peut pas toujours tout tester. Les surcoûts financiers s'imposent à nous aussi. Mais néanmoins, on est convaincu chez Est Métropole Habitat qu'on peut faire bouger les curseurs. Je vois tout à fait, c'est que la question de l'isolant fibre de bois ou les panneaux préfabriqués présentés avant, il y a encore 4 ans, c'était inimaginable. Et le fait d'avoir travaillé avec les industriels, on a réussi à les faire bouger parce qu'on leur a montré l'intérêt que les bailleurs peuvent avoir derrière et les enjeux pour la réglementation de demain. Donc, ce qu'on a fait, c'est un peu le travail pour nos confrères de demain. Voilà, autant ne pas être contraint, mais plutôt voir ça comme une opportunité.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé un petit peu d'un projet, c'est Bel Air 930. Est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu qu'est-ce que c'est que ce projet et puis ce que vous réalisez par rapport à ça ?
Tout à fait. L'opération de Bel Air 930, c'est la deuxième opération pour Est Métropole Habitat, de près de 1000 logements en rénovation. C'est l'idée d'utiliser déjà 80% de matériaux biosourcés pour l'isolation, donc principalement fibre de bois, et c'est surtout de travailler sur l'utilisation de matériaux par des panneaux préfabriqués. Donc on vient scanner les bâtiments, on les remodélise en trois dimensions, on vient préfabriquer des panneaux de 3 mètres par 12 mètres à peu près, et on vient tout préfabriquer en usine. Ça fait qu'on a juste des pattes de fixation à mettre sur la façade, et on vient accrocher les façades. Et comme je disais tout à l'heure, le chantier aura dû durer normalement 5 ans sur une opération classique. Là, c'est un chantier qu'on va faire en 20 mois. On va livrer au mois de juillet. C'est divisé par 4 le bruit, la gêne aussi pour nos locataires. Pour 100 mètres carrés, c'est 650 percements pour une façade classique. Une façade préfabriquée, c'est 75 percements. C'est près de 3 semaines pour une façade classique pour 100 mètres carrés à poser. Là, ce n'est que 3 jours pour une façade préfa. Donc il y a un gain de temps. Donc moins de bruit, moins de gêne, moins de poussière pour les locataires. C'est un vrai gain. Et en plus, pour la planète, le fait de préfabriquer les panneaux évite qu'on génère des déchets. Et sur le chantier, c'est près de 400 tonnes de déchets qu'on économise. Donc c'est toujours ça d'économiser. On a utilisé aussi deux choses. C'est le fait de déposer les garde-corps. Au lieu de les mettre à la poubelle, d'en faire des nouveaux bien à la bonne dimension avec l'isolation, là on est venu les déposer, les redimensionner, les relaquer et les remettre. C'est autant de points carbone en moins qu'on a pu générer. Et surtout, on a pu récupérer plus de la moitié des WC qu'on est allé mettre dans un cycle de reconditionnement des WC pour pouvoir le remettre dans les constructions neuves ou de réhabilitation.
Cette mission décarbonation est en tout cas partagée par les collectivités. La ville de Villeurbanne veut de son côté miser sur le premier émetteur, l'exploitation, notamment en développant le photovoltaïque dans la ville. C'est ce qu'explique Antoine Collia, adjoint au maire de Villeurbanne en charge de la transition énergétique.
En matière de photovoltaïque, au niveau de la ville de Villeurbanne, nous avons le projet de développer un projet en autoconsommation collective, c'est-à-dire installer des panneaux sur nos bâtiments qui alimenteraient ces bâtiments et d'autres bâtiments de la ville de Villeurbanne. À terme, nous voulons produire 10% de notre électricité. Et nous sommes en train d'échanger avec EMH et avec d'autres acteurs économiques pour identifier des fonciers sur lesquels on pourrait développer du photovoltaïque, voir quels sont les freins aujourd'hui à ce développement, comment nous pouvons accompagner ces acteurs dans leurs investissements et voir également si nous pouvons ensemble élaborer des projets d'autoconsommation collective. Donc nous sommes un peu dans une démarche de prospection en ce moment. Et nous essayons d'avancer sur ce sujet-là en écoutant d'abord les acteurs de terrain.
Au-delà de ces leviers d'action, Est Métropole Habitat cherche à sensibiliser leurs locataires à adopter les bonnes pratiques dans leur consommation du quotidien. Leur objectif étant d'atteindre la neutralité carbone en 2050.
Merci Inès. En basket, en ligue féminine, battue une deuxième fois, l'ASVEL éliminée en quart de finale des playoffs. Les filles de l'ASVEL ont été battues à Mont-de-Marsan par Basketland 69-61. En ligue 1, Alexandre Lacazette sera suspendu contre Lens. La commission de discipline de la LFP a confirmé qu'il écoperait d'un match de suspension pour accumulation d'avertissements. Il pourra en revanche tenir sa place lors du match OL-Rennes prévu samedi à Décines. Indochine prolonge sa tournée à la LDLC Arena avec deux dates supplémentaires, deux concerts exceptionnels, les 17 et 18 octobre 2025. Après le succès des quatre premières soirées en février, la billetterie ouvrira demain à 10h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Passez une excellente journée.